Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Deuxième podcast du triptyque E3 2016 pendant lesquels nous allons faire le bilan. Et nous avons déjà commencé la semaine dernière avec les conférences. Enfin, je dis la semaine dernière, c'était il y a quelques minutes, ça se trouve pour vous si vous êtes premium, puisque bien les trois podcasts sont disponibles en
à la
super
suite.
Avance et à la suite.
Trois à la suite.
Rien que pour vous.
Disponible à la nuit.
Exactement. Voilà. Avec moi, Julo.
Bonjour monsieur.
Voilà, je préfère ça. Traz.
Bonjour monsieur Vincent.
Et Romain.
Yo.
Les gars. Et nous allons.
Hey Romain, hey, how are you?
Nous allons évidemment et Mario revenir aujourd'hui sur les tendances de l'E3 2016. Tendances que nous avons comptées, il y en a une petite dizaine, hein, mine de rien, qu'on a dénombrées comme ça.
Des
choses qui nous ont un peu marqué pendant ce salon californien qui s'est tenu du 14 au 16 juin dernier à Los Angeles. Je vais commencer directement avec Romain parce que Romain t'y était, donc tu vas faire tout le podcast, nous on va se casser.
Et puis Romain il a tout vu, tout entendu.
Tout. Exactement. Déjà on va baisser la musique pour commencer, n'est-ce pas?
Incroyable et intense.
Baissage de musique intense.
Et aimable ou pas?
Et aimable. Voilà, la musique est à son plus bas. Merci Poufy, à la sono toujours, il assure. Romain.
Oui.
Première tendance.
Oui.
C'est qu'il y a eu beaucoup de jeux jouables sur le salon, peut-être encore plus que d'habitude.
Bah, moi,
et ça,
ce qui est
c'est beau.
D'habitude, l'apanage de la Gamescom plus.
Ouais, mais déjà l'année dernière, je me rappelle que Julien nous avait dit. Ah,
moi,
putain,
c'est mon deuxième E3 sur place. Et Julien m'avait dit l'année dernière, tu vas voir, tu joueras pas.
Ouais.
Et déjà à l'époque, on avait été surpris parce qu'on avait mal joué l'année dernière. Et c'est vrai que cette année, on a encore plus joué. On avait déjà beaucoup joué l'année dernière. Et je pense que là, comme ça, de tête. Il y a peut-être 5 jeux au total dans tous ceux que j'ai vus, auxquels, 6 peut-être un peu plus, mais j'ai joué à énormément de jeux, beaucoup de présentations manette en main, ça n'a pas arrêté. Aussi.
Mais c'est plutôt bon signe hein, d'ailleurs pour un E3 d'avoir plein de jeux, parce qu'en plus il y a beaucoup de jeux qui sortent en 2016, hein, ça fait partie des choses qu'on peut noter mine de rien dans tous les jeux qui sont montrés là cette année.
Et même de toute façon c'est cool pour se faire un avis, y a rien de mieux que de prendre la manette dans les mains et d'essayer nous-mêmes les jeux, même si certaines sessions de jeu étaient un peu courtes, c'est toujours mieux de pouvoir jouer. Et même là pour la première fois, enfin en ce qui me concerne, j'ai eu le droit à du Behind Closed Doors manette en main.
C'était pour quel jeu ?
Pour Gears 4. Ce qui est marrant, je rentre dans une pièce, il y avait deux personnes, donc un mec du studio de développement de The Coalition, un mec de Microsoft qui surveillait entre guillemets, et une chaise, une seule chaise au milieu, et ils m'ont dit bah mets-toi là et prends la manette.
Mets-toi là, on va te fouetter.
Je jouais tout seul comme ça
sous surveillance.
Oui, sur surveillance évidemment, mais ça
avec
un
flingue sur la
tempe.
T'es toujours sous surveillance finalement, et c'est vrai que là tu jouais à beaucoup de jeux quoi, sur même les stands. Parce que nous, on avait nos présentations sur rendez-vous, on va dire, mais aussi sur les stands, énormément de bornes pour jouer aux diverses productions. Même des jeux, par exemple, il y a des petits moments de trou sur mon planning, dont j'ai profité pour aller sur les stands et essayer des jeux que je ne devais pas voir forcément
là-bas. Du genre,
là-bas.
Dis-nous, vas-y, quel jeu tu ne devais pas voir?
Je devais pas voir Yakuza 0 par exemple.
Ah.
Il était sur le salon, mais pas de rendez-vous pris pour ce truc-là, donc j'ai pu aller y jouer.
Il était en accès libre, tout ça.
Accès libre. D'accord. Enfin, pour accès libre aux visiteurs du salon, quoi. Fallait juste faire un peu la queue. Quel autre jeu? Dead Rising 4, curieusement. On n'avait pas de rendez-vous pour Dead Rising 4, donc j'ai pu m'incruster sur.
Il était jouable.
Jouable, ouais.
Oh, mais la chance.
Ouais, donc je suis content d'avoir pu jouer à Dead Rising 4.
Et Death Gone, il était jouable.
Je sais qu'il y a un autre jeu, Ghostbusters. Lui. Oui. J'étais pas étonné qu'il n'y ait pas de rendez-vous pour ce jeu-là, mais il y avait une borne sur le stand Microsoft, donc
j'ai regardé les impressions,
dessus.
Voilà, on en dira pas trop.
C'est très très moyen, enfin, c'est pas un jeu sans ambition. Il y en a peut-être
d'autres. Il ne pas les boundaries
Non, il ne pousse pas les boundaries, non. Je pense qu'il ne cherchait pas du tout à le faire. Certainement d'autres jeux dont je ne me souviens plus comme ça tout de suite, mais bon, en tout cas, oui, beaucoup de jeux jouables. Et c'est
du coup, c'est un peu
cool.
Les vilains petits canards auxquels on ne pouvait pas jouer.
Non, non, même pas, parce qu'il y a Mafia 3, qui est quand même un sacré blockbuster, qui n'était pas jouable. Civilization 6, qui n'était pas jouable non plus.
En même temps, Civilization 6, pour te faire des impressions en 5-10 minutes,
oui,
sur un salon, c'est un peu chaud.
Il
vaut mieux avoir une présentation détaillée.
Tu vois, South Park. Pareil, qui n'était pas jouable malheureusement. Non, enfin, c'était pas forcément les mauvais jeux qui étaient pas jouables. D'ailleurs, je pense même que les plus mauvais jeux que j'ai vus, enfin les moins intéressants, c'était ceux auxquels c'était des jeux auxquels je pouvais jouer. Tu vois, Vampire de nouveau Dotnode, non plus très intéressant, mais pas jouable malheureusement.
D'accord, mais lui sort l'année prochaine, on a encore un petit peu de temps.
Oui, voilà, il y avait des jeux aussi qui sortent pas tout de suite.
Et... Bah dans tous ces jeux, justement, il y avait pas mal de réalité virtuelle aussi. Vous avez pu en essayer énormément, d'après ce qu'on a vu.
Plus Julien que moi, pour le coup.
D'accord.
C'était en fait les places.
C'était essentiellement de la PlayStation VR.
Voilà, il y avait un event juste après la conférence Sony qui était dédié au PlayStation VR. Et là, les places étaient très peu nombreuses. Donc, c'est Julien et Jean, notre cadreur, qui ont pu y aller. Moi, j'ai pu jouer au total. J'ai joué à seulement deux jeux en réalité virtuelle qui étaient Battlezone VR. Et Batman Arkham VR. J'ai réussi à m'incruster pour essayer Arkham VR après.
Mais alors justement, ça fait un petit peu. Est-ce que c'est un peu la démocratisation vraiment cette année, l'année zéro pour la VR dans les salons, enfin essentiellement à l'E3 évidemment.
Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression curieusement que la réalité virtuelle était plus discrète cette année que l'année dernière.
D'accord.
Il y avait plein de stands sur.
Moi, c'est ce que c'est le ressenti que j'ai
plein de
aussi
stands
d'ici,
sur lesquels tu pouvais en essayer, mais elle était moins mise en avant, et même sur le stand PlayStation.
Tu veux dire
sur le stand PlayStation, j'ai trouvé que la réalité virtuelle, elle était un peu cachée.
C'était
elle était
peut-être
un peu
moins mise en avant sur le salon en lui-même, enfin, genre là où t'étais et là où on n'était pas. Mais pour ce que on a vu nous, c'est-à-dire les conférences, on a beaucoup parlé de réalité virtuelle, au moins autant que l'année dernière.
Regarde, moi, je trouve pas.
Regarde,
je suis pas d'accord.
Là, t'as eu des présentations live pendant les conférences, dans la conférence Bethesda.
Derrière, c'était vraiment le paquet.
Ils étaient plus présents pendant les confs.
Cette année,
moins sur le show floor.
Sur les confs, ils étaient plus présents que l'année dernière.
Et pas chez Sony, par exemple. Regarde la conf PlayStation Experience de décembre dernier. Il y a eu tout un passage consacré à la réalité virtuelle.
Chez Sony, peut-être pas.
Il y a aussi, en fait, différemment, parce que Sony, l'année dernière, ils avaient fait des présentations sur la scène. Là, il y a eu un tunnel de trailer, en fait, lié à la réalité virtuelle. Donc, ils l'ont présenté, mais de manière différente. Mais je sais pas, moi, sur le salon même, j'ai trouvé que c'était moins in your face.
Comme je le disais, le stand adulte VR, lui, par contre, il a été pris d'assaut, comme nous l'a montré Julien.
Honnêtement, je ne sais même pas où il était, ce stand.
C'est vrai ?
Julien, le soir, après l'avoir vu, nous en a parlé, mais moi, j'ai même pas vu où il était.
Il fallait demander à Maxime Chao.
Il était certainement discret, ce stand, parce que je ne sais pas du tout où c'était. Je me rappelle qu'il y avait des stands avec des sortes de dômes qui te présentaient comment avoir la technologie IMAX-like à la maison. Donc ça, j'ai bien vu où c'était, mais le stand adulte VR,
je pense que la VR est morte.
Même maintenant, je serais incapable de dire à quel endroit c'était.
C'était un coin vraiment reculé, visiblement, où était Naughty America, mais un coin reculé, mais où tout le monde savait où aller, hein, visiblement.
Et moi, je suis complètement passé à côté.
Des jeunes adultes il y en avait pas mal, hein, devant le stand. Oui, on vous a grillé, hein, oui, d'ailleurs, au passage. Et Julien aussi. Si vous êtes premium, vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de monde pour aller se pignoler. Voilà, je le dis.
Oh là là, tout de suite, la violence.
C'est étonnant.
On parlait de la réalité virtuelle et ça me fait penser un truc.
Non.
Le stand Capcom avait donc reconstitué la maison de Resident Evil 7.
Ouais, c'était virtuel.
Et les démos étaient en réalité virtuelle.
Closed door, ouais.
Gros plébiscite pour ce stand. Par exemple, le dernier jour, moi je suis passé parce qu'en fait je me suis dit je vais essayer de profiter d'un de mes trous dans mon planning pour prendre une session d'essai à ce moment-là parce qu'il n'y a que Julien qui a pu essayer Resident 7 en réalité virtuelle. Et à 10h10, donc 10 minutes après l'ouverture du salon, il y avait déjà la queue tout autour de la maison et les gens de chez Capcom qui disaient c'est sold out, c'est fini. Et tous les jours, dans les minutes qui suivaient l'ouverture, toutes les sessions étaient bookées pour gros intérêt autour de Resident 7 en VR. Mais le problème c'est que comme c'était un beau décor, finalement il n'y avait pas beaucoup de bornes d'essai.
Mais c'est pas là où il était assis Julien justement quand il a testé le jeu, c'est ça?
Ouais, hein, c'est ça. D'accord. Mais le truc c'est que ils ont fait
pas beaucoup de bornes, voilà, il y avait une ou deux à mon avis.
Dans mais donc c'est étonnant que tu dises qu'il n'y a pas beaucoup de réalité virtuelle parce que c'est la première fois peut-être qu'on arrive à la montrer à peu près bien dans les conférences pour commencer, notamment du côté de chez Ubi où ils nous ont montré
Star Trek
Bridge Crew et bon celui-là qui est un peu considéré comme une blague à la rédaction, je ne sais pas pourquoi.
J'ai loupé celui-là, j'avoue.
Bridge Crew, ouais. Ces trucs avec les acteurs de Star Trek qui sont en cercle et ils arquent chacun.
Non, mais c'est la mémoire sélective, ça. Tu l'as mis dans ton subconscient direct.
Ouais, mais Eagle Flight par exemple avait l'air plutôt cool.
Eagle Flight, c'est sympa.
Et même sur scène, tu vois, tu avais l'impression que
Eagle Flight était jouable sur le stand d'Ubi, mais à ma connaissance uniquement en behind closed doors. En fait, c'était une petite pièce à l'arrière du stand où c'était des bornes alignées comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment des zones de jeu sur le stand d'Ubi.
Non, mais surtout, enfin, je suis étonné du fait que tu dis ça pour la réalité virtuelle parce que c'est quand même le moment où on va dire la pop culture est en train d'arriver dans la réalité virtuelle puisqu'on a quand même pu voir
un peu du Battlefront de comment dire en réalité virtuelle avec X-Wing VR Mission, je crois il s'appelle.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et on a pu voir aussi que je dis pas de bêtises.
Il y avait deux autres jeux.
Batman, le Batman VR, voilà, dont tu parlais tout à l'heure.
C'est clairement la réalité virtuelle était clairement plus présente, enfin plus visible sur les confs que sur le salon lui-même. Après. Enfin, c'est ce qui est bizarre étant donné que les expériences sont convaincantes, enfin je trouve.
Mais c'est pas une question de pratique aussi, genre mettre des casques aux gens, machin, bidule, c'est peut-être qu'elle est.
Bah ouais, il me semblait que l'année dernière, c'est après peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais il me semblait qu'elle était vachement plus visible sur
même
les stands
les
l'année dernière.
Bah on a l'impression que c'est surtout PlayStation VR, comme je disais tout à l'heure, qui était vraiment présent pour le coup.
PlayStation VR, normal, hein. Ça sort en octobre.
Ouais, et c'est peut-être le plus grand public et ils ont des grosses licences liées aux expériences qui sortent dessus, donc c'est pas forcément étonnant. Et Sony mise beaucoup sur le PlayStation VR et là encore tout est lié au grand public en fait.
Quand t'as Eagle Flight.
Parce que sur PC, ça reste quand même une technologie pour l'instant de niche.
Ultra cher.
Lié aux technophiles, technophiles disposant d'un budget conséquent. Alors
Poufie,
que le PlayStation VR, c'est pas la même
Poufie
chose.
Qui nous fait un sourire narc. Un
Poufie, il en a acheté deux de chaque en fait, pour être sûr.
Pour le garder. Il les a revendus.
Pour le garder en boîte.
Euros et...
Ah,
il a annulé l'Oculus. Ah, Breaking News, Poufie a annulé sa précommande d'Oculus.
Bah, sinon, elle arrive jamais.
En même temps, il a acheté ses Vive, ça devrait.
Ça fait 6 mois qu'il l'a commandé.
Mais comment Palmer Luckey va pouvoir acheter ses nouvelles tongs et ses chemises à.
Mais je ne sais guère.
Grande question.
Mais en ce qui concerne la réalité virtuelle, moi j'ai beaucoup aimé Batman.
Ouais.
Ah ouais
Batman, j'avais cru comprendre que c'était une super expérience.
Vraiment chouette, ouais. En fait, ça pourrait être un point and click d'un genre nouveau. Et en plus Batman,
ah ouais, c'est bien ça.
Batman c'est le meilleur détective en fait, tu
c'est
vois.
C'est le plus grand détective du monde, c'est comme ça qu'il est
présenté. La première séquence de
les premiers comics de Bob Kane.
Julien en a déjà parlé, mais la première séquence où tu ouvres le piano et tu fais des notes pour ouvrir l'ouverture dans la Batcave et ensuite tu enfiles le costume, tu enfiles le masque, tu prends le bat grip, etc. Mais la deuxième séquence, c'est là où ça devient pour moi une sorte de point and click, c'est que tu te retrouves devant le cadavre de Nightwing.
Oh le spoil!
Et tu dois retourner dans le temps, avancer, etc. pour trouver des indices et savoir ce qui s'est passé, qui a fait ça, etc. Et c'était plutôt chouette,
sympa.
Meilleur détective du monde.
Pas croyable ça.
En fait, il y a pas mal de choses, il y a plein de choses différentes à faire avec la VR et c'est ça qui est.
Ouais, mais il y avait pas beaucoup de jeux complets par contre. À part Farpoint qui était visiblement présenté comme un jeu complet et Yandelay.
C'est ce que j'allais dire, il y a quand même un truc assez inquiétant, c'est que le PlayStation VR, HTC Vive et Oculus est déjà sorti. Le PlayStation VR arrive en octobre.
Absolument, le 13 octobre.
Et à l'E3, donc en juin, quelques mois avant, finalement, il y a. C'est ce que j'avais demandé à Julien qui a testé beaucoup de jeux en VR. Je lui dis, mais est-ce qu'il y en a un qui est un vrai jeu, quoi, au-delà d'une expérience même aussi cool soit-elle. Est-ce qu'il y a un jeu, quoi, genre complet,
Flashpoint.
Long et il m'a parlé de Farpoint.
D'ailleurs, c'est celui qui avait la bannière sur le Convention Center.
Ouais. Alors que Batman, ça t'a plu, mais encore une fois, c'est juste une expérience.
Mais en fait, c'est assez confus en fonction des personnes à qui je parlais. Certaines disaient, non, ça sera pas qu'une expérience.
D'accord.
Il y aura plusieurs scènes qui seront mises à la suite, etc. Avec un petit scénario, d'autres disent si ce sera une expérience.
Ça dure une demi-heure.
Pour l'instant, c'est assez confus finalement sur ce que proposera ce Batman Arkham VR. Mais j'ai hâte de voir pour le coup. Et c'est là aussi où c'est dommage qu'il y ait eu un problème de désorganisation chez Bethesda, parce qu'on ne doit pas dire Bethesda comme on
Bethesda.
Dit. Mais c'est imprononçable pour un français.
Bethesda.
Bethesda. Et c'est là où c'est dommage qu'il y ait eu des problèmes d'organisation, parce qu'eux présentaient des jeux, des vrais jeux jouables en réalité virtuelle. Ils ont transformé, d'après ce qu'ils disaient, Doom et Fallout 4. Les jeux seront intégralement adaptés à la réalité virtuelle.
Mais
pour
les raisons qu'on connaît, vous n'avez pas pu les tester.
Bah voilà. Raison de monde et raison d'organisation. Et voilà.
Snoop Dogg était là aussi ou pas?
J'ai rien senti donc.
Mais d'ailleurs, en parlant de. Je fais une petite parenthèse. Fallout et.
Fallout
et Doom. Réalité virtuelle, oui, mais ils ont dit uniquement sur HTC Vive.
Ah, oui,
parce que ça ne peut fonctionner correctement aussi bien qu'on le voudrait que sur HTC Vive.
Exactement.
Mais ce qui est marrant, c'est que un jour plus tard, dans la conférence Microsoft, je me suis rematé le moment du dévoilement de Scorpio. Et il y a un développeur de Bethesda qui dit qui dit plus ou moins que Fallout 4 va sortir en réalité virtuelle sur Scorpio.
Ouais.
Voilà. Mais, je crois mais ça sera pas du coup sur PlayStation VR.
Mais je crois que pour Doom et Fallout 4, ils avaient dit HTC Vive uniquement pour l'instant. Je crois qu'ils avaient précisé.
Pour l'instant.
Ils avaient précisé. Mais ce qui est amusant en ce qui concerne la réalité VR, je sais pas si j'en ai parlé dans les autres podcasts, mais la réalité virtuelle sur Scorpio. C'est un peu un sujet touchy pour Microsoft, j'ai l'impression. Parce que quand j'ai demandé à Phil Spencer, et vous le verrez dans l'interview quand elle sera publiée sur le site, si la Scorpio serait uniquement compatible avec l'Oculus, parce que c'est comme ça qu'on pourrait le voir. Hein,
oui, parce qu'il y a un partenariat. Il y a un partenariat déjà.
Tu pourrais imaginer que c'est compatible Oculus. Ou, et après j'ai demandé Oculus ou d'autres casques, là tout de suite petit regard sur les attachés de presse hors caméra, et ensuite il dit nous on n'a pas annoncé de partenariat encore, etc. Donc la manière que j'ai eu de l'interpréter, c'est que potentiellement la Xbox One, la Xbox Scorpio pourrait avoir son propre casque made in Microsoft.
Ça pourrait
maybe,
être
maybe not, hein, mais le fait que je laisse entendre que c'était avec Oculus acquis, que c'était acquis avec Oculus, il a plus ou moins voulu me rectifier à ce niveau-là, tu vois. Et après, ils ont dit, on parlera plus en détail de nos plans pour la réalité virtuelle par la suite. Mais malgré tout, il y a eu un...
Selon toi, il prévoit un casque, quoi.
Ça ne m'étonnerait pas.
Un casque maison.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il prépare un casque maison, ouais.
Mais ce serait pas mal.
Peut-être en partenariat avec Oculus. Hein, parce que mine de rien, le Gear VR, c'est un partenariat avec Oculus.
Comme on l'évoquait dans le podcast avant E3, pourquoi pas le retour de Kinect comme capteur.
Mais il y a un truc.
Tu accroches le Kinect à ta tête.
Il y a un truc tout simplement, fondamentalement.
Tout simplement.
Qui n'est pas compatible entre Oculus et la stratégie de Microsoft. C'est que Oculus a sa propre stratégie au niveau du store.
Ouais.
Donc par exemple, quand tu joues sur Gear VR, t'es sur ton Galaxy S machin ou S truc. Pardon, tu mets le casque.
C'était quoi ce bruit?
Je sais pas, j'ai pris mon respiration. Ça a fait... Il y a eu un trou d'air dans ma gorge. Et à ce moment-là, t'es balancé sur le store d'Oculus et tout est centré sur le store Oculus. Et ça, évidemment, ça, pour Microsoft, ça peut pas marcher. Surtout donc ça voudrait dire que soit Oculus, soit Microsoft devraient infléchir sa politique.
Ouais.
Donc.
Ils cherchent vraiment à imposer leur store en ce moment, Microsoft. Ouais. Donc, oui, c'est. Plusieurs éléments poussent à penser que ça serait un casque maison.
Bon, parler de la réalité virtuelle, on va parler un peu plus des contenus des jeux maintenant. Une des tendances qu'on a pu observer, par exemple, c'était l'appel de la nature. Un peu plus présent.
Oui, c'est vrai. Ça,
c'est
vrai.
Des forêts, de grands espaces.
Bah, c'est un peu chez Sony qu'on voit ça aussi. C'est-à-dire que quand tu regardes la ligne éditoriale entre guillemets de Sony, c'est très nature, quoi. Chasse et pêche. Nature et découverte, avec énormément de
dans
la démo de God of War, c'était des grandes forêts dans Horizon, vous l'avez vu comme tout le monde,
des massacres d'animaux,
c'est des grands espaces,
c'est toujours des grands espaces, mais et toujours des mondes ouverts aussi, hein, ça fait partie des grosses tendances qu'on peut observer, mais ça,
Forza Horizon 3,
Horizon,
et mais ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent des environnements variés, et ça c'est par exemple c'est quelque chose que j'ai ressenti dans la presse de Forza Horizon 3, mais aussi de Days Gone, où il nous parle à chaque fois d'écotypes différents et de d'environnements variés. Par exemple, dans Days Gone, c'est le jeu se déroule dans le Pacifique Nord-Ouest américain, et c'est justement pour sa variété, sa diversité.
Et tu parlais de Forza Horizon, c'est pour des raisons de diversité aussi qu'ils ont choisi vraiment spécifiquement.
C'est pour permettre de proposer des mondes ouverts, mais dans lesquels les gens sont pas toujours dans le même environnement.
Parce que quand tu regardes le monde ouvert de Metal Gear Solid 5 par exemple, il est quand même très monotone.
Ouais.
C'est très monotone. Ouais, c'est toujours pareil.
Quasiment. Oui.
Bah sauf quand tu changes d'un pays à l'autre. Parce que dans Metal Gear 5, il y a plusieurs pays quand même.
Mais il y a deux maps en fait.
Mais oui, donc Forza, tu passes de la plage à la forêt tropicale, à des villes, et Days Gone, c'est la montagne. Enfin, il y a la forêt d'abord qu'on a vu dans la vidéo. Il y a aussi la montagne, il y a aussi des petites villes, etc. Enfin, ça varie pas mal.
Mais c'est vrai qu'on sent une espèce de tendance, d'une manière générale, vers les jeux en milieu naturel, quoi.
Ouais.
Et même Mafia 3 finalement, parce que t'as la ville de la Nouvelle-Orléans, mais t'as le bayou, des zones un peu plus vertes aussi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de nature dans des jeux.
Puis Steep, hein, qui est un peu
D'un côté, quand tu fais un jeu de snowboard ou de ski, tes environnements sont assez restreints. Quand
finir une conférence avec un jeu comme ça, c'est pas banal. D'habitude, on a un truc qui explose, qui nous en fout plein la gueule, etc. Là, c'est un truc tout paisible. On fait du wingsuit, du parapente. voilà, c'est plutôt on a plutôt envie de respirer quand on voit ce jeu plutôt que de bourriner.
Moi, je t'avouerais que dans tous les jeux que j'ai pu voir à l'E3, ce type, c'est pas celui qui m'a le plus branché, mais bon. Ce n'est que mon avis personnel.
Non, mais c'est un peu normal, je veux dire, c'est vraiment c'est ça qui était beau finalement dans la conférence Ubisoft, c'est qu'ils se sont permis de terminer avec un jeu comme ça, c'est-à-dire que le One More Thing depuis 3 ans
Gatricone,
bah, c'est des jeux de fou, ouais. Hyper mainstream qui claquent à la gueule et qui font le buzz. Là, ils savaient qu'avec ce jeu-là, ça ferait pas le buzz, ça parlerait pas à tout le monde.
Ouais, mais au moins, c'était un peu plus original risque que ce qu'on voit.
Mais je crois que c'est sciemment que ça a été choisi par Yves Guillemot
pour illustrer son discours
à la toute fin.
Chez Bolloré, ouais.
Où il dit, voilà, on fait primer la liberté de création et de choisir notre avenir, quoi.
Ouais, mais tu vois, pour un jeu qui se passe à la montagne et qui propose ce genre d'expérience de gameplay, etc., je l'ai pas trouvé attirant. Je trouve qu'il n'y avait pas d'enthousiasme dans la démo, c'était un peu mou. Enfin,
il lui manque un petit supplément d'âme, moi je dirais.
Il est assez attendu.
Quoi.
Le cadre du jeu est pas particulièrement funky et tout. Enfin, oui, vous pouvez faire un drop-in ou un drop-out sur ce point de la montagne, machin. Enfin,
ça a l'air cool.
J'ai trouvé ça chiant, ouais. Quoi. Enfin, ouais, ça m'a pas fait envie du tout.
C'est la liberté totale, mec, c'est ça qui est bien.
Mais il lui manque vraiment juste un petit.
Regarde, c'est rigolo quand tu fais du snow comme ça.
Oui, mais il lui manque juste un petit twist, un truc. Un petit supplément.
Mais il est pas du tout en VR celui-là, hein. Il y a pas une option VR.
Non, mais là, si que je sache.
Tu pars en VR avec ça, tu dégueules au bout d'une minute. Hein.
Bah, attends, Wingsuit, ça doit être bien en VR. Ça.
Ouais, mais ça serait
pas tout. Mais
la Wingsuit en VR. Les accidents domestiques à répétition.
Ouais, tu sais.
Donc voilà, petite tendance pour la nature et les mondes ouverts. Comme je disais, d'ailleurs, les mondes ouverts, on a l'impression que maintenant tous les jeux veulent être en monde ouvert. C'est un truc qu'on observe.
Bah, c'est une grande tendance,
personnellement, ça fait au moins 3 ans que je dis ça. C'est-à-dire que c'est plus un genre, quoi. Le monde ouvert, c'est juste une feature qui est
pseudo ouvert. Attention,
enfin, une fonctionnalité.
T'as l'impression qu'il n'y a plus que ça.
Bah, c'est normal. C'est comme si on disait il y a plus que de la 3D, quoi. Enfin, pour moi, c'est juste. Voilà, c'est un monde ouvert. Bah oui, c'est un monde ouvert.
Mais non, regarde, Uncharted 4, c'était un pseudo monde ouvert. C'est pas un monde ouvert.
C'est pas un monde ouvert.
Non,
pas
du tout. Ils ont voulu un
peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, mais c'est à plus rien d'impressionnant d'être en monde ouvert, ni de.
Oui, mais il faut.
Ni de tendance, etc.
Il a quand même fallu 3 ans après la sortie des consoles.
C'est juste normal, quoi.
Mais il continue dans les présentations, il continue de le souligner. C'est un truc qui m'a marqué.
Ils vont plus
open
pushing
world,
the boundaries. Ils vont plus souligner la taille de l'open world que le fait que ce soit un open world.
Ouais, 8000 km².
Moi, je vais dire le mot open world à chaque fois.
Non, moi je te dis ça par rapport aux présentations auxquelles j'ai assisté et des jeux en monde ouvert. J'en ai vu pas mal et à chaque fois c'est appuyé sur le fait c'est un jeu en monde ouvert. Days Gone, Mafia 3. Agents of Mayhem, j'en oublie peut-être, mais il y en a plein où c'est monde ouvert, et c'est toujours présenté comme un argument de vente en fait, curieusement. Alors que c'est vrai que c'est devenu super habituel.
Bah, c'est
même
presque,
Zelda
c'est la
est
norme,
un monde
hein.
ouvert, hein.
Bah oui, absolument.
En vrai monde ouvert maintenant.
Exact.
T'imagines même Nintendo s'y est mis.
Mais Nintendo avait commencé avec le premier Zelda.
Et Vampire, c'est un semi-monde ouvert. Parce que t'auras plusieurs quartiers de Londres qui seront reliés entre eux. Mais tu vois, ils appuient, même si c'est semi, ils appuient quand même sur le côté monde ouvert de la chose.
De toute façon, tout ça sans Shenmue, ça n'existerait pas. Donc voilà.
C'est vrai.
C'est vrai, mais.
Shenmue, le monde super ouvert.
Qu'est-ce que je te dis ?
Passer à une autre tendance. Parce qu'en fait, bien qu'on ait beaucoup de monde ouvert dans de la nature, des grands espaces, ah là là, c'est cool, il y a des oiseaux et tout ça. Qu'on aussi noter quand même que la violence n'est pas partie hein, de cette 3.
Mais non, c'est bien,
c'est quand même un petit peu la fête.
La
fête aux zombies.
Mais non, je vois pas où est le problème en fait.
C'est pas l'horreur.
C'était vraiment les genres, les thèmes qui étaient les plus présents, quoi. Encore une fois.
Regarde la Première Guerre mondiale, bah, il faut mettre
des fusils.
Mais non,
mais le truc, c'est que
des chars d'assaut.
Moi, je compare toujours ça au cinéma. C'est comme si d'un seul coup, fallait arrêter un style de film.
Non,
pas du tout, c'est pas ça.
Là, il parlait d'équilibre plus que
voilà, c'est plus la balance qui penche vraiment du côté.
La balance commerciale, tu veux dire.
Voilà. Bah, oui, non, mais je parlais pas forcément pour toi, c'est juste qu'il y a des gens qui se disent là, ouais, le jeu vidéo, c'est que de la violence, c'est encore trop de violence, etc. Bah, d'une, parce que c'est vendeur, et deux, bah, tu vas pas arrêter d'un seul coup
parce
de
que
faire
les gens
un genre. Il y a certaines thématiques
mais
que
mais
tu
là,
vas aborder dans un jeu.
Mais là, t'es en train d'expliquer, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La question, c'est plus une question philosophique, quoi. Est-ce qu'il y en a pas trop, tout simplement?
Les zombies, par exemple, on pensait que les zombies, ça y est, on avait tourné la page, on avait eu assez de jeux avec des zombies. Regarde, on se trouve avec Days Gone qui nous a bien hypé d'ailleurs.
Franchement, Days Gone, honnêtement, on peut pas dire qu'ici on aime pas.
Mais le pire, c'est qu'on est faible. On se laisse hyper par des trucs dont on.
Moi, quand ça passe, pardon, ça passe
on reproche
mieux,
le manque d'originalité.
Ça passe mieux quand c'est des zombies, effectivement, des êtres dégueulasses, on s'en fout. C'est pas des humains, entre guillemets, quoi. Donc, bon, on peut tirer dessus. moralement ça nous affecte pas. Ah
oui, quand, et comme quand c'est des robots, des dinosaures robots aussi.
Robots, ouais. Des machins, voilà.
Parce que qu'est-ce qu'il dit qu'un zombie ça a pas une conscience,
Il a pas de famille,
une moralité,
il a pas un travail.
Bah dans la
ça
bah,
se trouve que les humains disparaissent, ils reprennent une vie normale.
Bah, c'est comme ça, après je sais pas, je leur ai pas demandé encore. Donc,
moi ça me gêne pas à partir du moment où ça se justifie dans l'histoire et où c'est
voilà, c'est ça. Quand c'est pas too much,
tu vois pas.
Non mais disons que je sais pas si vous avez suivi d'ailleurs, il y a eu un tweet de comment s'appelle le créateur de The Witness,
Jonathan Blow.
Merci.
Jonathan Blow
qui a dit il faisait référence évidemment aux tristes événements d'Orlando et qui disait donc je sais plus exactement la teneur de son tweet mais en gros ça voulait dire donc voilà, après ce qui vient de se passer à Orlando,
on continue.
On ouvre cette 3 et donc l'ouverture c'était que des jeux de pan-pan, boum-boum.
Ouais, mais c'est de la récup de balle ça.
Ouais, ça montre... m'énerve moi.
C'est de la récup,
ouais,
récup à dessous.
Ça m'agace. C'est ridicule. De
bah, d'ailleurs, ça
a agacé. Quoi, t'annules ta conf quoi.
Bah ouais, c'est ça.
Ça a agacé beaucoup de monde.
C'est
devenu un fil de conversation de plusieurs kilomètres de long avec plusieurs game designers qui sont venus. Je vous recommande d'aller fouiller là-dedans parce que t'as une vraie discussion qui est super intéressante et je pense que
au final Jonathan Blow les a
mais bloqués. Mais Jonathan Blow il a raison quelque part mais,
non, mais il le faut tout
mais
tout.
Il faut
lui,
pas,
c'est
il faut pas arrêter
point,
de,
boom,
il faut pas
bah,
que la Terre s'arrête de tourner, que le jeu vidéo arrête de produire les jeux qu'il produit, etc. C'est juste que on peut quand même se poser la question. C'est vrai que c'est un média assez jeune et un peu parfois immature, et c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le pan-pan boom boom et que parfois dans certains jeux ça prend des allures réalistes. Au point que lorsqu'on vient de rencontrer des événements aussi tristes que la tuerie d'Orlando, on peut pas s'empêcher. Je veux dire, quand t'es un humain normalement constitué avec un cerveau, tu peux pas t'empêcher dans ta tête, même si t'as raison, il faut pas que la Terre s'arrête d'arrêter. Mais même toi,
ça s'arrête d'arrêter,
ça arrête de tourner.
Ouais,
mais
retourne,
mais même toi qui penses ça. Je pense que tu fais un rapprochement à un moment donné quand Orlando vient de se passer et que on enchaîne sur de la guerre et sur du ski, sur comment assassiner des gens.
L'être humain se massacre depuis la nuit des temps.
Mais
ça
oui,
pas d'aujourd'hui.
Mais je dis pas qu'il faut arrêter.
Donc,
moi, c'est pas ça que je dis.
Pas, ça
je dis juste que c'est.
Il y a 50 ans, il y avait une Deuxième Guerre mondiale qui a exterminé des centaines de millions de morts.
D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas se poser la question ?
Ça a exterminé des centaines de millions de morts.
Ah bah si tu comptes tout.
Vous faites tous de jolies phrases.
Ouais ouais. Là on extermine les morts. On arrête d'arrêter.
qui a fait une centaine de millions de morts là.
Voilà. Moi je dis c'est légitime en fait.
Moi
je posais la question.
Exactement.
Je pense que à partir du moment où tu fais, et c'est là où il a fait une erreur, à partir du moment où tu rends un petit hommage et que tu fais une phrase où tu te dis que tu penses aux victimes.
Ouais,
et
ça paraît bizarre quand même. C'est les mecs, la tuerie d'Orlando, c'est triste, machin.
Bah,
etc.
Moi, je vais dire,
et là, allez, c'est parti, c'est le 3. Et là,
je trouve ça moche de mettre tout sur EA.
Mais moi, je vais dire, j'ai trouvé ça.
Mais moi, je mets pas tout sur EA.
Moi, j'ai trouvé ça de bien plus mauvais goût. Ubisoft qui commence avec des
Just
gens
Dance.
Qui dansent partout, Don't Stop Me Now de Queen, des gens qui font la roue et tout. Ouais, c'est trop fun. Et deux secondes après, Aisha Tyler. Oui, nous pensons aux victimes de machin. Moi, j'ai trouvé ça bien plus mauvais goût que de faire un message en début de conf et d'enchaîner avec un
et
jeu.
Et moi, vraiment, j'étais pas sur. J'étais sur la production vidéoludique de manière générale.
Mais tu parles et tu dis pam pam boum boum. À partir du moment où les confs, c'est la première
chose
qu'on voit. Mais
toutes les confs, c'était pam pam boum boum.
Mais oui, mais tu veux faire quoi dans ce cas-là?
Bah.
Les
faire avancer le public.
Ouais, mais ça serait hypocrite de pas les montrer.
En osant le dire de temps en temps que la variété c'est bien aussi et qu'il y a beaucoup de pam pam boum boum et
mais
qu'on a le droit de s'émerveiller aussi sur le reste
mais
qu'on appelle de nos voeux.
Oui, mais là, regarde.
Mais là, on fait que s'exprimer.
Non, mais
je suis pas en train de dire que.
Non, mais comment veux-tu faire? C'est ça la question.
Les bases, il faut le dire, l'exprimer et.
Les confs, elles sont prévues depuis des mois.
Mais je te parle pas forcément de ces confs là.
Parce que si, puisque le problème vient de là, il y a beaucoup de pampan boum boum pendant les confs juste après les tueries. Tu veux faire quoi?
Ouais.
Les confs, tu les annules à moitié.
Mais la tuerie d'Orlando, elle aurait pas eu lieu juste avant. La question se posait quand même.
Bah, si, tu parles de là, tu parles
parce
quand
que
même
tu fais un rapprochement
là,
évident et parce que la discussion est partie de là dans le tweet de
Jonathan
Blow. Mais le rapprochement entre
ces
ce qu'on fait dans
un
jeu.
Donner un genre,
mais et... non, mais non.
Oh, on est tellement.
Ça y est, alors il y a les intellos et il y a les.
Mais non, mais moi je
bolos.
Pense que tu peux être touché, tu peux être touché par la tuerie et trouver ça
bah,
horrible
oui.
Et qu'il y ait des choses,
après,
qu'il y ait des choses à changer évidemment sans avoir à vouloir tout remettre en question dans le jeu vidéo. Dans ce cas-là, tu remets le cinéma en question.
C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tout remettre en question.
C'est ce que tu dis pourtant.
Non, il faut remettre en question.
tout remettre en question. Tu dis ça comme s'il fallait balayer d'un revers de main toutes les productions violentes et ne faire que des jeux fleurs bleues. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que on peut se poser la question et se dire comment ça se fait que dans un média qui est maintenant joué par des grands enfants comme nous, on puisse pas avoir un peu moins de ça et un peu plus d'autre chose. C'est tout. Parce que l'équilibre est pas là.
En tout cas, l'équilibre visible n'est pas là.
L'équilibre visible. T'as raison, voilà. Oui, parce qu'on pourrait parler de toutes les productions indées qui existent,
oui, c'est ça,
mais qui n'existent pas de manière mainstream, quoi. Enfin,
mais après, c'est tes propres choix aussi. Je veux dire, si t'as pas envie de jouer à ce jeu-là, tu joues pas.
Tout le monde est libre.
Si les gens achètent
et d'ailleurs,
pas ça,
tu
bah, ils en font
moins. Il y a que ça qui dicte, de toute façon. Si les gens achètent Battlefield et Call of Duty en masse, on continuera à avoir des productions. Donc évidemment, Call of Duty et Battlefield et d'autres éditeurs et développeurs qui vont produire le même genre de jeu.
C'est là où il y a l'argent.
Et quand un comment il s'appelle, Mirror's Edge se plante, il faut attendre 10 ans avant un miracle qui revienne et que tout le monde s'en foute autant que lorsque le premier est sorti. Mais voilà, c'est comme ça. Et après, les gens qui sont sensibles à ça ont le droit de s'exprimer.
Ouais, bien sûr. Voilà. Cela dit, moi je pense que la conférence PlayStation, je suis presque sûr qu'ils avaient peut-être plein de discours en fait.
Mais la conférence PlayStation, elle est.
Mais en fait, c'était un tunnel de trucs. Peut-être qu'ils ont tout annulé. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de faire des discours en plein milieu ou à chaque trailer. Regardez ce trailer, il va cartonner, il y a plein de pom-pom-boom. Moi, ça m'a paru
possible.
Bizarre, hein. Qu'ils aient fait un discours au début, un truc au début, après plus rien.
C'est tout à fait possible.
Moi, je pense qu'ils ont tout annulé. Hein. J'en suis quasiment certain. Parce que, je veux dire, c'est les seuls à avoir fait ça depuis que le 3 existe. Quoi. Donc, on n'a jamais vu ça. Normalement, il y a toujours une intro, un machin, un bidule.
Des mecs qui passent, voilà, qui parlent de leur jeu.
Ah, moi, rien fait.
Je pense que c'était voulu, ça.
Aussi, peut-être pas. Pour rythmer, faut voir. Hein, on leur posera la question la prochaine fois.
Mais même, on le saura jamais. Ou alors, oui, on le saura dans 20 ans quand quelqu'un écrira un livre sur son temps chez Sony.
Mais non,
on leur
posera la question avant et ils nous répondront. Chouchou arrivera et nous dira
suite.
Oui, y a pas de problème, je vais vous répondre.
Pas
avec son grand sourire.
Bon, en tout cas, Death Gone, ça tue, moi j'aime bien.
Oui, et c'est un jeu de zombies.
Mais là,
et
ouais, tu vois, par exemple,
moi je suis pas c'est un des jeux qui m'a le plus marqué.
Moi je suis pas contre les jeux non violents, etc.
Je suis pas contre les jeux.
Par exemple, je pense à Fée, qui était dans la conf hier.
Il n'a pas vraiment eu sa chance.
J'ai trouvé ça naze, moi. Franchement,
c'est assez.
Autant l'année dernière, Unravel, j'avais adoré immédiatement. J'ai été captivé par ce jeu tout de suite.
Hein, c'était un des jeux du salon l'an dernier.
Bah oui, bah
j'ai pas trouvé ça beau.
Parce que ça
mais parce que c'est peut-être moins bien. Voilà. Et ça se trouve,
parce
ça
que
se trouve
ça
au final, on va le tester. Il va être mieux que Unravel qui était finalement. Ah
ouais.
Non, mais Julien a beaucoup aimé.
Oui, il a aimé.
Il a mis 4.
Ouais, mais
si,
il savait rien.
Bon, mais là en l'occurrence, fait, ça m'a fait ni chaud ni froid. Vraiment.
À voir.
Alors qu'il y a des jeux violents qui m'ont beaucoup plus botté tout de suite.
T'as boité des culs comme
Reggie. Bon, malgré tout. Mais tu vois, par exemple, moi, l'un de mes jeux coup de cœur, c'est We Happy Few.
C'est assez violent.
Ça va être violent, hein. Attention. Oui. Et de la même manière, ça s'inspire un peu d'Orange Mécanique dans le. Orange Mécanique,
le
c'est un film extraordinaire, c'est un film extrêmement violent. Ouais. Mais c'est des films.
Enfin, c'est extrêmement violent pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça nous ferait rigoler. Hein.
Non, pas vraiment.
C'est quand même violent.
Ça me fait toujours pas rire.
C'est de la violence symbolique.
Exactement.
C'est exactement ça, c'est très très symbolique.
Bien plus forte que Days Gone, par exemple.
Bien sûr.
Days Gone, c'est des masses de zombies qui courent.
Ouais, mais c'est décérébré. Et là, c'est de la réflexion. Quelque part, tu réfléchis justement sur le monde
qui
t'entoure et sur la violence. En fait, ça parle de violence, ça parle de société, etc. Et c'est pas juste shooter du zombie ou participer à la Première Guerre mondiale.
Mais tu vois, il y a quand même un juste milieu à trouver, genre dans la violence décérébrée, parce que Days Gone, on connaît pas encore trop l'histoire. Là, nous, ce qu'on a vu, c'est surtout des phases d'action décérébrées, entre guillemets. Et ça m'a bien plu. Alors qu'à côté de ça, j'ai joué à Killing Floor 2, où là, le but du jeu, c'est de tuer des vagues de zombies. T'as 4 ou 3 ou 4 vagues de zombies avant d'arriver au boss dans le niveau. J'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça inintéressant. Pas nul, inintéressant. Ça m'a pas plu du tout. C'était ultra violent, ultra sanglant. Et en fait, à partir du moment où tu mets pas les choses en scène de manière intéressante, ou que tu me racontes une histoire.
Exactement. Ou tu mets un fond.
Ça m'intéresse.
On a le droit d'avoir des jeux avec du fond. Et
justement, on va
même
on va parler
malgré la violence.
Ouais.
On va parler
bien
justement
sûr.
D'une autre tendance qui s'est quand même affirmée. On parle de beaucoup pam pam boum boum durant cette E3, mais une autre volonté en fait du côté des développeurs qui était assez manifeste de prendre un peu des risques et de changer parfois la formule.
De changer la vie.
On parle
comme
par exemple de mettre un peu d'émotion dans les jeux. God of War par exemple. il est totalement révolutionné. Si on prend la licence de manière générale, ça n'a rien à voir. Ce qu'on a vu.
Il est révolutionné à tous les niveaux.
Ah oui, là, que ce soit une vue à la Last of Us, le fait d'avoir intégré un lien avec un autre personnage enfantin pour Kratos.
Enfantin.
Bah oui, c'est un môme. Après, je sais pas. Visiblement, c'est son fils. Bon, j'ai pas, je me souviens pas avoir entendu.
Moi, je pense qu'il l'a récolté.
Sachant que sa fille l'a récolté, sa fille l'a perdu, on le sait.
Oui,
ça.
Sa fille est morte. Mais après, je me rappelle pas.
Sa fille et sa femme.
Pareil qu'il dit Father à un moment, j'ai pas entendu. Mais bref, ça fait partie des choses qu'on était un petit peu comment dire
complètement retourné à 180 degrés.
Exactement,
là.
Voilà, il y a eu un énorme virage. Resident Evil 7 Biohazard, pareil, on oublie la formule précédente. Ubi donc causé avec Steep
Zelda aussi.
Et puis on parle pas de Zelda évidemment.
On peut citer que Steep chez Ubi quand même. Je peux pas dire. Enfin, j'ai rien contre eux là, mais le manque d'originalité de Ghost Recon Wildlands de
Ah ça celui-là tu l'aimes pas lui hein, tu
ah, j'aime bien
de...
moi Wildlands et avant
t'as envie de lui faire
ouais,
du mal hein,
non non mais il sort du manuel faire un bon jeu Ubi pour les nuls quoi,
c'était pas mal Wildlands mais moi, c'était pas bien, ultra original non plus.
Non et puis Watch Dogs 2 ça m'a fait ni chaud ni froid.
C'est juste c'est un ensemble de recettes qui sont mis dans un bar
ils ont pris tous leurs jeux et ils ont
Watch Dogs 2 c'est GTA like quoi donc
ah mais alors pour le coup Watch Dogs 2 j'ai trouvé qu'il avait plus de charisme,
de personnalité,
plus de personnalité que le premier. Le premier j'avoue que je l'ai fait en entier et je me suis un peu ennuyé. Enfin, c'était un monde générique au possible, un monde sans âme, etc. Alors que là, t'avais le côté ensoleillé et vivant de San Francisco, même musicalement et tout. Enfin, c'était.
Et puis il y a du parcours. Ils ont rajouté la dimension Assassin's Creed parce qu'il manquait un élément Ubisoft dans ce jeu Ubisoft.
Si on mettait ça.
Par contre, ce que je disais, c'est que dans mes impressions de Watch Dogs 2, c'est qu'ils ont voulu donner un personnage un peu plus travaillé, il est plus jeune, etc. Il est plus branché,
il est plus rapide.
Mais ils lui ont donné un côté yo man qui risque peut-être d'agacer. Ouais. Bah, surtout, si c'est mal fait, ça
en traduction française surtout, on sait comment.
Parce que l'image du hacker quand même qu'on a, elle en prend un sacré coup là. Le mec, il est super svelte, hyper athlétique. Il met son laptop dans le dos, il saute, il fait des roulades, il sort un flingue.
Mais t'imagines
le laptop a jamais rien.
T'imagines si quelqu'un faisait un jeu comme ça avec le hacker.
Bah ils l'ont fait, ça y est.
Stéréotypé. Genre le gros lard, le un peu sale qui bouge jamais de son truc.
Et là, il essaie de se lever, de courir et tout. Il veut faire une roulade avec son laptop et le laptop, il explose en morceaux. Il y a un truc marrant à faire. Il y a une vidéo rigolote.
Je crois qu'on s'éloigne de la tendance, les jeux
oui,
à 180 degrés.
Non, mais c'était quoi la tendance? On était sur quoi?
On peut s'écarter, il n'y a pas de problème.
God of War, par exemple, qui est.
Ah ouais, sur le fait qu'il y a.
Les formules
de vouloir de renouveler un peu
et les formules réinventées formules. On peut l'appliquer à Zelda aussi.
Ah voilà. Mais Zelda
oui, on en a parlé. Ouais.
Zelda d'ailleurs dont on peut parler maintenant.
Quelle réinvention de Zelda.
Ouais, réinventé.
J'ai joué,
réinventé entre guillemets.
J'ai joué sur le stand Nintendo, j'ai été bouleversé. C'est... Moi qui n'aime pas la licence Zelda.
On dit.
Là, je me suis dit celui-là, je vais le finir 10 fois.
Oh,
ils ont
arrête.
Tout changé, c'était incroyable.
T'es dégueulasse, Romain.
Incroyable ce Zelda.
C'est ça,
mais
c'est
ça.
On comprend l'ironie, mais on voit que aussi que tu connais pas bien Zelda.
Regarde, il va mettre la vidéo de Zelda.
On peut pas dire qu'il est totalement révolutionné.
Non, ça reste du Zelda.
Parce que quand
basique.
Tu le vois, c'est
ça.
Mais par contre, tous ces petits éléments changés,
c'est bien.
Pour nous qui aimons la licence.
C'est vrai que c'est presque un bouleversement en fait.
Mais c'est un bouleversement, mais surtout ce qui fait plaisir.
Voilà. Mais God of War,
c'est bien qu'ils aient décidé de changer une formule qui était la même depuis toujours.
Mais regarde le pauvre Link.
Par rapport à ce qu'on connaît de Zelda, surtout ce qui est rassurant en fait, par rapport à cette E3, pardon,
c'est
le fait que Nintendo, mine de rien, a prouvé qu'il pouvait être là quand on l'attendait parfois.
Regarde, on dirait Uncharted 4.
Avec ce Zelda.
C'est
un peu l'immortalité.
Ce qui est formidable quand même, c'est que.
Parce que c'est quand même le jeu qui a été le plus discuté. De tout le 3, il a pas eu de conférence,
justement, il a
frappé ultra fort.
Ça, c'est vrai que ça peut être, c'est une tendance.
Complètement, l'immortalité de
à lui tout seul, Link là, mais
ouais. En gros,
Nintendo fait plus de conférences. Il a même pas fait un Nintendo Direct. Il a dit, je vais pas venir avec des jeux, je vais venir avec un jeu. vient avec un jeu.
Et vous allez tous me manger dans la main.
Ils volent le salon. Et vous allez tous me manger dans la main, exactement. Ouais. Et quelque part, ils volent le show parce que.
Ils volent le spectacle.
Les gens ne parlent que de ça. Zelda. Et c'est un jeu Wii U aussi, qu'on a vu, la Wii U qui s'est fait.
Bah en fait, j'ai peut-être attendu que ça suit
la longueur de temps.
Sur Wii U, va me faire peur.
Mine de rien, c'est un seul jeu pour Nintendo, ça suffit.
Après, on va m'accuser de ce qu'on veut m'accuser habituellement. J'y ai joué sur Wii U et les plaines pleines de hautes herbes, etc. Moi j'ai vu beaucoup de zones où c'était pas d'herbe du tout, c'était juste un sol vert aliasé à donf.
T'as du popping et tout.
Moi il m'a pas ébloui graphiquement sur Wii U.
Non mais Romain il sera forcément calibré pour la NX.
Oui, j'espère bien. J'espère pour les fans. J'espère pour les fans de Zelda. Et de là à dire une fois encore Nintendo a volé le show, mais faut arrêter 5 minutes.
Non mais là on parle en termes médiatiques.
Ah oui, en termes médiatiques.
Mais il n'y a aucune raison de.
Mais il n'y a peut-être aucune raison, mais c'est la réalité des
faits. C'est scientifique.
Les gens n'ont parlé que de ça.
Tiens, c'est calculé.
C'est comme les émissions genre les Ch'tis et les Marseillais, il n'y a aucune raison d'en parler. Ouais. Pourtant ça marche.
Je me cartonne. Je me l'explique pas. Il y a des jeux qui étaient incroyables sur cette E3. Zelda qui fait du Zelda une fois encore. Oui, il peut mettre de la viande dans une marmite et grimper à un rocher.
Non,
c'est super.
Pas du Zelda. Non. Là, tu te plantes. Là, il fait pas du Zelda. Là, il va choper dans tous les jeux qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui.
Mais tu te rends compte? Tu te rends compte qu'on arrive en 2016 que Nintendo,
qui
décide enfin de se sortir les doigts du Luc et de faire un truc un peu plus novateur, même pas novateur, un peu plus dans l'air du temps.
Ouais,
et là,
t'as
l'impression qu'ils ont réinventé le jeu vidéo.
Non, du tout. On dit juste que
ils ont inventé Zelda. Aucune raison de crier au génie comme ça
et
de
parler au génie.
Mais si, ils ont volé le show, on parle que de ça, etc. Il y a aucune raison.
Ça
serait un autre constructeur qui mettrait
ça.
J'arrive pas à
m'expliquer. Parce que moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve pas qu'ils ont réinventé la roue.
Oui,
hein.
Non, ils ont pas réinventé la roue.
Ils ont bouleversé.
Il y a un million de jeux à côté. C'est-à-dire
que Nintendo tourne tellement en rond depuis des années que le simple fait qu'ils passent en monde ouvert, qu'ils changent des systèmes dans un jeu établi, etc.
Mais alors pourquoi on le présente pas comme ça?
Mais moi, je le présente comme ça, moi.
Mais là,
j'ai très peur.
Mais pourquoi ça a été genre une farandole de oh, c'est génial, c'est incroyable, etc.
Parce que
ça nous fait kiffer.
Mais parce que ça fait kiffer quand même.
Parce qu'on a le scoop mondial.
On a le droit de kiffer.
C'est quand même l'une des plus grandes sagas de tous les temps.
Là, comment ça gueule, n'importe quoi.
T'as beau ne pas l'aimer,
on a plus le droit d'aimer quoi que ce soit aujourd'hui.
Mais merde, quoi.
Ouais, c'est fou.
Regarde, Link, qu'il y a, ça manque de pam pam boum boum, c'est ça.
Regarde, Link qui fait des feux comme dans
Red
Dead.
Link aurait sorti un shotgun et le machin de troll de pierre, il lui mettait une bastos dans la tête.
Ah, c'est la révolution, là.
Là, ça aurait été incroyable.
Bah, on en parlait trois fois plus, hein, je pense, si ça avait été le cas.
Ah oui.
Là, c'était. Je pense que Twitter explosait même.
Non, parce que deux fois, comment c'est violent, sans déconner, je suis dégoûté.
Enfin bon, voilà, je sais pas si vous êtes premium, vous voyez la vidéo, ça fait quand même.
Ah, ça fait rêver. Mais je rêverais mieux sur
NX. C'est une invitation au voyage, quoi, tout bêtement.
Après, c'est sûr que ça peut pas te faire rêver si t'as jamais aimé Zelda.
Oui.
J'ai l'impression que c'est toujours la même chose.
Et
mais vraiment,
non,
bah
là, pour une fois.
Non, là,
ça, une fois.
Parce que là, dit, le Wind Waker, c'était un monde.
Bah ouais, Wind Waker, il était complètement différent.
Wind Waker, je l'ai fait deux fois. Une fois en japonais, une fois en européen. Franchement, j'ai autant kiffé, quoi.
Mais Twilight Princess, c'était génial, mais après, c'était.
Le problème, c'est que. C'est plus juste une question de goût. C'est juste que ce type d'univers, les elfes et tout comme ça, moi, ça me plaît pas.
J'aime
pas ça. C'est la même raison pour laquelle
Toi, il te faut un fusil tronçonneuse et des extraterrestres.
Mais non, je préfère une base plus.
Une base spatiale?
Non, une base plus réaliste. Moi, les univers Heroic Fantasy, ça me plaît pas. Donc, à partir de là, forcément, je suis pas attiré par
Zelda. Attends, moi, je suis pas très fan d'Heroic Fantasy du tout. Genre The Witcher 3, je l'ai jamais fait.
Mais t'es fan de Zelda?
Ça,
il déteste le Seigneur des Anneaux.
Mais pour moi, c'est Heroic Fantasy, mais pas tant que ça, quoi.
C'est Zelda, en fait.
Ils vont le mettre sur la jaquette. Heroic Fantasy, mais pas tant que ça.
Rassurez-vous.
Non, mais enfin, je sais pas. Ouais.
Non,
une espèce d'inspiration Miyazaki qui est quand même largement visible.
Ouais, Nintendo, qui est quand même à la peine grave depuis deux ans. Là. Ils se sortent les doigts du cul, comme tu dis.
Et là, ils ont déballé. Ils ont une grosse cartouche quand même.
Et grâce à un jeu, ils arrivent à faire parler plus d'eux que de tout le reste.
Mais en même temps, ils n'ont pas trop le choix parce que c'est Nintendo.
Mais ils y sont pas arrivés de ces derniers
c'est
temps.
C'est la marque des grands, monsieur.
Pour moi,
ils y sont pas arrivés ces derniers temps. C'était bien là pour le dire.
C'est là le vrai talent de Nintendo.
Mais oui,
c'est qu'ils ont gardé, ils ont réussi à garder une cote d'amour et un.
La Costa
des passe-droits. Tu sais, les cartes sorties de prison
que
t'as au Monopoly.
Ces deux dernières années,
Nintendo,
t'as l'impression que
ils en ont une pile, comme ça.
Réponds à ma question. Répondez à ma question, monsieur Mahé. Est-ce que c'était le cas les deux dernières années?
Oui.
Non.
Mais carrément si.
Bah non.
Splatoon.
Star
ils
Fox.
Ont volé
Star
le salon.
Bah non. On n'a pas dit qu'ils avaient
Splatoon,
volé le salon avec
Star Fox.
Personne à la rédac n'a dit ça.
Ils ont volé le jeu.
Personne. La seule personne qui a dit ça s'appelle Nico Augusto.
Et c'est un fanboy.
Et c'est un putain de fanboy.
Mais relis les commentaires sur internet de l'année de
Splatoon.
Nintendo a volé le jeu et pas que Nico.
A volé le jeu.
Mais pas le 3. Après, quand il est sorti, effectivement, on a dit ouais, c'est cool et tout. Mais pas le 3.
Nintendo, c'est juste que c'est eux qui ont démocratisé vraiment le jeu vidéo et depuis ils sont intouchables, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est à chaque fois qu'ils vont faire un petit truc Ça y est, c'est le génie Nintendo.
Je suis pas d'accord
c'est
du tout.
Talent Nintendo. Zelda, ça serait non,
ça
un.
Fait,
ce Zelda
ça, fait deux,
là,
ça fait deux ans qu'on leur tape
ce
dessus.
Ce Zelda,
je suis pas
là,
d'accord.
Ça serait un autre constructeur, un autre éditeur qui le ferait. Il ferait pas autant de barouf.
On n'arrête pas de dire qu'ils sont merdés avec la Wii U.
C'est juste qu'on a tellement envie que Nintendo revienne. Que quand ils font un truc
mais
comme ça.
Mais c'est bien qu'ils reviennent, il faut que tout le monde revienne.
Mais ils reviennent, ça c'est pas revenir, je suis désolé.
Mais bah c'est revenir à la preuve, on en parle.
On verra.
On en parle, et c'est
on
animé.
En parle parce que c'est Nintendo.
Faut laisser sa chance
au produit comme ils sont.
Vraiment, mais alors vraiment, immortel.
Et après, je rajoute un peu de mauvaise foi parce que c'est pas mon délire.
Ouais, j'ai bien vu que tu te faisais plaisir. Moi j'ai adoré le passage où tu dis oh ouais, il peut se faire la cuisine, il peut grimper à un rocher, génial, c'est révolutionnaire.
Mais c'est un peu vrai.
La révolution.
C'est un peu vrai.
Il peut même sauter maintenant, sauter d'une falaise.
Mais tu te rends compte? Mais en 2016, on s'excite parce que le personnage peut sauter. Mais est-ce que si on s'arrête deux secondes et qu'on, et qu'on réfléchit à ce que,
sur image.
À ce que ça représente,
j'adore.
Mais c'est une révolution.
Il peut sauter.
Pour un Zelda, c'est une révolution.
Mais
ça
non,
n'est jamais
c'est...
arrivé. Dans un Zelda, ça n'est jamais arrivé.
Ça remarque à tout là. Ça y est, c'est fini.
Voilà. Parce qu'avant, c'était automatisé, c'était beaucoup plus simple. Ouais. Maintenant, ils prennent un risque en faisant ça, en mettant une. Oh, non, mais...
Ah, ils jouent la maison là.
Non, mais mine de rien.
Alors là, ils ont tout mis sur le zéro. Ils ont mis
rien,
tous les jetons sur le zéro.
Ils s'exposent à des choses qui ne sont pas comment dire, qui sont pas faciles. Pour
ils sont fous le machin.
En se foutant un.
C'est quoi
comment dire
déjà le fou
un
le
saut
bidule, là, je sais pas quoi.
Qui n'est pas automatisé, ils s'exposent peut-être à des bugs. Qu'ils auraient.
Je suis d'accord avec Romain. On va pas non plus faire une demi-heure sur le vaisseau quoi. Enfin, je sais pas.
Ok, d'accord.
Bon, ils ont rajouté un.
Oui, voilà. Mais ça peut, mais ça peut être. Ça
non,
peut
mais
un problème,
c'est étonnant. Mais c'est plus étonnant pour le côté trivia du truc. C'est-à-dire, tiens, saviez-vous, c'est le premier, la première fois que Link peut sauter
Et qui peut faire du snowboard sur un bouclier.
Voilà,
aussi,
je sais pas.
Qui peut faire la cuisine.
De la même manière qu'on trouvait ça étonnant que lorsqu'il est sorti sur Wii U, Link est devenu pour la première fois de sa vie droitier, tu vois. Donc c'est des trivia, c'est intéressant. Culture jeux vidéo, je m'y connais, je brille en société dans les salons vidéo game et tout. Mais
mais on s'en fout.
Est-ce que ça révolutionne quelque chose?
Faut bah pas non, plus
parce que faut pas pousser.
Tu vois, ça aurait été pour moi ça aurait été beaucoup plus audacieux et il y aurait vraiment eu plus de raisons de parler de ce Zelda si il te balance
faire du co-op.
Il te balance un trailer où t'as Link qui est en train de parler avec un autre personnage.
Et tu fais bien de le dire parce qu'il y a des personnages qui parlent déjà.
Et que t'as des choix et que t'as un vrai scénario, nouveau. Un vrai truc qui change vraiment l'univers.
Attends,
de Zelda.
Peut-être que dans le jeu, ils montrent peut-être pas tout aussi. Peut-être qu'il y a de la coop, des machins. Peut-être qu'on peut jouer à 12. On sait pas.
Bah c'est vrai qu'on sait rien là.
Je sais pas ça. Là, c'est juste des là pour moi, c'est un ensemble de petits ajouts de gameplay quoi, de petites
bon,
de
j'ai
petites
bien aimé ce débat.
Moi aussi.
Mais on va, il est temps de passer à la suite.
On va passer à la suite. Il y avait un élément sur lequel j'aurais pu revenir un peu plus tôt parce qu'on en a parlé, c'est les super-héros. Les super-héros, c'est redevenu cool.
Ah, c'est Romain qui va tout casser
parce que
et bah mettre cerveau, je trouve ça de la merde.
Batman,
ça sert à rien.
Batman VR, le Spider-Man PS4 qui a réussi à nous enthousiasmer pour la plupart des personnes ici parce que c'est quand même Insomniac. Ah moi oui,
j'ai trouvé ça mais moi je trouve ça cool que ce soit Insomniac mais on a rien vu quoi.
Bah le trailer
c'était,
est beau.
C'était du endgame.
Réussi. Il y a des trailers de super-héros.
Le trailer, c'est un
teaser. C'est pas un trailer
tout, hein.
Qu'on a vu, les gars.
C'est un
mini
teaser tout minuscule. Hein.
Oui, mais
c'était plus long que ça.
Non, c'était du in-game. Hein, ouais, ça dure un peu plus.
Super, mais attendez, on a vu même pas 10 secondes.
Ah oui, oui. Moi, j'ai vu 20 secondes
alors,
du teaser. Hein.
Qu'est-ce que ça peut
moi,
faire
moi, il m'a semblé plus long que ça.
Ou alors, on a loupé un truc, mais.
J'ai fermé les yeux.
Quoi que ce soit, il y a ça, il y a une Justice 2 aussi que t'as pu essayer.
Une frustration pour moi au salon, c'est le stand Telltale Game. Qui
avec
était,
Batman
qui était au sous-sol, enfin quasiment au sous-sol, dans les zones où c'est que des petits box en préfabriqué. C'était le seul qui avait un stand dans cette zone-là et ils avaient reconstitué le manoir Wayne. Donc t'avais une pièce avec une cheminée,
John Wayne.
Des verres à cognac, etc., des gros canapés en cuir et une porte secrète qui te menait vers une petite Batcave, tu vois. Et pas moyen de contacter les gens de chez Telltale pour aller essayer le jeu. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que j'étais un peu déçu de pas pouvoir l'essayer. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que le super-héros peut se décliner dans de multiples types de jeux. T'as Arkham VR qui est totalement différent des jeux Arkham qu'on a pu voir jusqu'à présent en termes
développé
de...
par Rocksteady hein.
Et pourtant développé par Rocksteady. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que j'ai tendance à me dire que ça va pas être une petite expérience. Parce que Rocksteady, ils ont pas annoncé d'autres projets que
ils
ça.
Ils ont pas envie de faire de la merde.
Et eux,
c'est le genre de développeur qui fera pas de la merde.
Ouais. Attention, et s'ils ont eu les kits verts 6 mois avant,
bah, ils sortiront pas le jeu.
Ça va être compliqué.
Ils attendront.
Hein.
Exactement. South Park.
C'est peut-être pour ça que c'est que des expériences.
Avant d'aller à South Park, c'est un peu cas particulier.
Alors regardez là, on voit Spider-Man.
C'est ça que j'ai vu que ça.
Et c'est joli.
Bah,
hein.
Regarde ça.
Mais c'est pas du in-game ça.
Si c'est du in-game, ils l'ont.
Ça c'est du in-game.
Ah, alors c'est vrai qu'on voit un peu plus que ce que j'imaginais. Oui, c'est du in-game.
Attends, ça m'a.
Ça m'a
fait super envie.
Ok, je l'ai pas vu ça.
Ouais,
j'avoue.
C'est pas mal.
J'avoue.
Bon après ça va être la 30ème fois qu'on va voir New York dans.
Oui, bah oui.
Avec Spider-Man, ça va être
c'est quand même super joli.
Ah bah si, c'est ce que j'avais vu pourtant. J'ai pas fait gaffe.
Non, franchement, je vois pas.
C'est pas 10 secondes. Hein.
Autant pour moi, ça m'a pas marqué.
Mais moi aussi, c'est pareil. J'ai l'impression que c'était passé très 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 vite.
Vous êtes des enflures.
Je me suis pas rematé toute la conférence avant de venir faire ce podcast.
Autant que moi. Tu l'as mal préparé. Tu devrais avoir honte. Non mais voilà, ça a l'air cool.
Non, mais c'est un des jeux qui m'ont fait fort impression.
On a vu vachement plus que ce que j'imaginais.
C'était
en toute fin de conférence. En même temps, je pense qu'il était 5h du matin là.
Injustice 2, le trailer. Moi, j'ai vu le trailer.
Oui,
ça
a l'air génial.
Injustice 2. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier et le 2 a l'air tout aussi bien, tout aussi spectaculaire avec en plus maintenant.
Je sais pas si vous pouvez
le côté,
mais je suis un peu
côté RPG. Qui vient par-dessus, parce que c'est vrai que t'as vraiment du loot en fait à la fin de chaque match. Tu récupères des objets et tu peux personnaliser ton super héros, augmenter ses compétences,
ouais,
changer son apparence.
Oh, wow, c'est génial!
Non, franchement,
non, mais même Aquaman, j'ai l'impression qu'il est cool.
Moi, je suis pas super héros.
Aquaman, son attaque spéciale, c'est ça remplit le décor d'eau.
Ouais, il y a une espèce
de
gros
poisson.
Non, mais Aquaman, les gars.
Aquaman, pour moi, il schlingue. Mais
vous
là,
vous êtes en train de vous, vous extasier
non,
sur Aquaman.
Je m'extasie pas sur. Non, mais même l'attaque spéciale.
Non, parce que
de
faire à manger, sauter sur un rocher, d'accord. Aquaman. Non, mais attends, tu nous prends pour qui là?
Chaque victoire vous permet de faire tiep.
Mais voilà, ils s'envoient dans des hélicos, dans des.
Mettez dans
des
le
bus,
moteur de recherche de Gameblog Aquaman.
Ouais.
Et allez lire la news de Fumble d'il y a 3-4 ans. Voilà, c'est tout.
Qui avait eu un retentissement.
Ah oui. Retentissant.
Ah ouais. Ça fait péter des astéroïdes. Enfin voilà, je sais pas, ça a l'air cool.
Et en plus, et là,
c'est pas dans Zelda que tu verras ça.
Moi, j'ai pu jouer que à des parties normales, tu vois. Mais ouais. Dans Injustice, faut se rappeler aussi qu'il y a toujours un scénario qui est travaillé avec une belle mise en scène, des cinématiques, etc.
Comme on a vu dans Tekken 7 d'ailleurs, des enchaînements cinématiques gameplay assez bouleversifiants.
Mais c'est une sorte de virage pour les jeux de combat, mine de rien, avec un accent mis sur le scénario, la mise en scène et le scénario. Bon, moi, là, on s'éloigne du super-héros. Mais
bah non, pas du tout.
Pour le coup, Lego Dimensions qui a aussi des personnages liés aux super-héros. South Park, c'est différent au sens où les enfants. Ouais, voilà, ils reprennent
le thème. C'est ça qui est génial.
Les enfants jouent aux super-héros.
Ouais, mais je sais pas si t'as remarqué. Ils ont les mêmes conversations qu'à la rédac. Quand toi, tu parles avec quelqu'un d'autre de tel film, tel arc, tel machin, il faut d'abord faire un film sur truc avant de réunir les héros. Et tout leur débat comme ça de gamin, il est génial.
C'est justement là où Trey Parker et Matt Stone ont bien compris les choses. C'est qu'ils ne cherchent pas à faire un jeu de super-héros. Ils cherchent à faire un jeu où des enfants jouent aux super-héros.
Ouais,
et à aucun moment, ils oublient, enfin les créateurs du jeu ont oublié que c'était des enfants. Par exemple, moi dans la démo que j'ai vue, à
trash,
un moment, ils sont en train de se battre sur la rue.
Ah,
et là, t'entends un des gamins qui fait
sur la
voiture. Et là, ils remontent tous dans les deux camps. Hein. Ils remontent sur le trottoir et t'as une bagnole qui passe avec un mec dedans.
Alors qu'on était dans
foutu,
un truc.
Foutu gamin, arrêtez de jouer sur la route. Et hop, et ensuite ils reviennent, ils se remettent
et
à se battre.
Et le jeu recommence.
Voilà.
Pas comme avec le jeu de rôle en Stick of Truth, hein, finalement.
Oui, voilà, c'est ça. À aucun moment, t'oublies que ce sont des enfants qui se déguisent en fait.
Ça me fait penser à Wayne's World. Voiture, engagement.
Et donc oui, c'est du super-héros, mais fait différemment, et c'est ça qui est génial.
D'ailleurs, il y a une étude anglaise très sérieuse qui a défini qui était le super-héros le plus puissant du monde.
Ah. Batman, c'est ça. Non, Superman.
Superman. Enfin,
bah, c'est évidemment Superman.
Oui, évidemment.
Non, mais vous avez pas compris. Une étude super sérieuse.
Bah ouais.
Ouais.
Ils font des études super sérieuses surtout maintenant.
Non, mais je veux dire, enfin, il a une force
surhumaine et colossale.
Bah ouais, il est plus fort que Hulk,
il peut
par exemple.
Il peut aller aussi vite que Flash s'il a envie.
Il peut voler. Il a les yeux laser. Il peut faire tourner la Terre dans tous les sens.
Je pensais que c'était Galactus.
Fait ce qu'il veut.
C'est ça, Galactus.
C'est super bien. Il mange
Galactus,
les mondes.
C'est encore autre chose.
Et ouais, donc, oui, t'as peut-être d'autres exemples sur les super-héros.
Non,
mais
c'était ceux-là que.
Oui, il y en a.
Parce que t'as l'impression que c'est redevenu cool, les super-héros.
Bah, ça cartonne au cinéma, donc ça crée des vocations.
Non, mais quand c'est réalisé comme ça, c'est génial, quoi. Franchement, c'est ça qui manquait, en fait. Parce qu'on se souvient des jeux de l'époque des super-héros. Qui était tellement à chier, tellement mal fait. Hein. Je me souviens de Superman.
Là, il y a Teenage Mutant Ninja Turtles qui est sorti récemment par Platinum, qui est vraiment pas génial.
Il y a des contre-exemples, mais.
Là, en fait, c'est un ensemble de choses. T'as d'un côté le succès de Batman, parce que faut pas se leurrer, Batman Arkham Asylum, c'est le premier jeu de super-héros qui a donné une ambition triple A à un jeu de super-héros. Donc la série a cartonné, les jeux étaient excellents. Donc forcément, chez Marvel, même s'ils s'occupent plus eux-mêmes directement des jeux vidéo, ça leur a fait se poser des questions.
Surtout
ils ont
après Thor, Iron Man et
voilà,
je sais plus,
ça, c'était Captain America. C'était les jeux à licence tels qu'on les connaissait, les trucs vite faits pour sortir en même temps, en même temps qu'un film. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est de mettre vraiment en avant leurs super-héros dans des jeux vidéo et faire quelque chose de bien. Et là, Spider-Man, même si c'est qu'un trailer, tu vois quand même qu'il y a de l'ambition, derrière ce projet. Et ça pourrait donner des choses très très bien. Si Batman l'a fait, pourquoi pas Spider-Man? Et pourquoi pas d'autres super-héros?
Espérons-le très fort. Il nous reste deux tendances sur lesquelles on va se pencher. On va commencer par Hideo Kojima.
Hideo Kojima,
c'est un petit peu.
C'est une tendance,
c'est
Hideo
pas,
Kojima.
Bah, ouais, c'est un peu la tendance.
C'est une tendance à lui tout seul.
De le... bah, exactement. C'est une tendance à lui tout seul.
Il
parce que
qu'il
le
est de retour.
Il est quand même présenté par Andrew House qui revient exprès sur
André
scène
Maison,
pour dire
ouais.
Voilà, il y a quelqu'un qui arrive.
Bah, tu m'étonnes. C'est un. Pardon. C'est un.
C'est la rockstar du jeu
c'est
vidéo.
C'est un grand nom et à pouvoir avoir ses services rien que pour, rien que pour eux chez Sony, c'est évidemment un truc qu'il faut mettre en avant. Non, c'est
mais surtout,
sûr.
Surtout par rapport à ce qui s'est passé, vu qu'il s'est fait éjecter à coup de pied au cul en gros de chez Konami. Ouais. Forcément, là, il est de retour, comme il dit.
Mais c'est ça qui me fait rire, c'est qu'il dit I'm back, etc. Mais moi, peut-être parce que je travaille dans le jeu vidéo, etc., j'ai l'impression de n'avoir jamais arrêté de
oui.
Parler d'Hideo Kojima. Pour
c'est
moi,
vrai,
il a jamais disparu. Hein. Le mec, il sort pas de sa caverne. Hein.
Au contraire, il a enchaîné directement juste après.
Complètement.
Il a pas pris d'année sabbatique.
Immédiatement, il fait tout pour continuer à exister.
Mais il est
pour,
là tout le temps. On parle de lui en permanence. Donc son I'm back, ça m'a un peu fait rire. Quoi.
Bah oui, mais parce que.
Oui, il était pas à l'E3 l'année dernière, mais big deal. Quoi.
Bah surtout qu'il avait pas eu le droit d'aller au.
Ah mince. Au VGX.
Voilà, au Video Game Awards. Donc voilà,
c'est pour ça qu'il a dit ça.
Kojima.
Oui,
en
ça.
Tendance
c'est
la seule vraie star
exprimée
voilà,
sur devant de la scène maintenant.
La seule vraie star de cette E3, vous validez
avec Camilla qui dort pendant les treehouse.
Camilla pendant la coupe Microsoft qui avait l'air de se faire
non mais
chier,
je sais pas je trouve que c'est un peu trop moi.
Tu trouves que c'est too much?
Ouais.
Ouais, mais attends, hey, tu crois qu'ils l'ont pas payé Kojima pour le faire venir? Bah voilà,
bien sûr que
pour qu'il rentabilise un tout petit peu.
Ils ont une joint venture.
C'est normal,
hein.
C'est comme Quentin Starr qui arrive au PSG.
Ah, puis regarde, encore une fois.
Tu fais la conférence de presse, les petits jongles sur la
pelouse. Moi, je suis d'accord avec Joe, je trouve que c'est un peu trop, mais de l'autre côté, je trouve que Sony a eu raison de le faire.
Il a singé Michael Jackson et Billie Jean, donc pour moi, il a quand même pas la stature de Michael Jackson, faut pas déconner.
Encore une fois, quand il arrive.
Du boulot.
Déjà, ça fait
j'ai
parler.
Vu son moonwalk,
et quand
je
on
sais pas.
Et quand on regarde le trailer de Death Stranding,
ça
tout le monde,
la part choc.
Oh, oui, bien sûr.
Moi, c'est ma vidéo au
mais
sens large, un trailer,
show,
etc. préféré du show quoi.
Bah, le trailer.
D'ailleurs, quelqu'un a essayé de la décoder la vidéo et tout parce que.
Ah oui,
que...
ouais,
mais lui-même, hein, Kojima, il a expliqué des trucs.
Ah oui, d'accord.
Tu verras parce que Julien m'a expliqué.
Le bébé.
Il sort de son ventre, c'est ça.
Il m'a expliqué juste après l'interview, mais je pense que l'interview qu'il a fait d'Hideo Kojima apportera des précisions supplémentaires sur le
Norman Reedus Konami.
De ce trailer.
En gros, on a piqué son bébé à la naissance
non,
après une expérience, c'est ça.
Norman Reedus, c'est Konami.
Moi, c'est moi qui.
Et il se fait reprendre
ça.
Son bébé par ses vrais créateurs.
Ah, c'est
non,
ça,
Norman Reedus,
c'est
Kojima.
Ciel.
Ah, bah, moi, je
c'est Norman Reedus, c'est Kojima.
Oh là là.
Et son bébé, c'est Pity ou Metal Gear.
Bah, le bébé, c'est Pity, ouais.
Et il se le fait prendre, c'est pour ça qu'il pleure. Et la marée noire, c'est Konami. Je plaisante, j'en sais rien.
Pas sûrement.
Pas la marée noire, les chouages des baleines.
C'est peut-être les baleines. Enfin bon, tout ça pour dire que encore une fois, quand Kojima est là, ben on en parle.
Et pour le coup, il fait le show. Je serais super curieux de voir la manière que va se transformer en jeu vidéo cette bande-annonce.
Oui, c'est ça.
Quel va
Peut-être
être
que
le gameplay, quel type d'expérience ça va être. Parce que là, quand tu vois un trailer comme ça, tu t'attends à une surproduction,
pendant 5 ans.
Un triple A de ouf. Avec lui à la troisième personne,
ça sera
etc.
Pas vraiment le cas, hein.
Ça se trouve, ça va être un top-down shooter.
Ça sera un jeu d'action, ça on le sait, mais après, faut
j'ai
voir
des bêtises.
Comment il va se présenter.
Bah, moi, ça je voyais plutôt un jeu de voiture. Quoi.
Ça se trouve, c'est un clip.
Un jeu de surf. C'est en fait, la marée noire, tout ça, c'est le côté écolo du jeu de surf.
Ça se trouve, c'est un clip pour Amnesty International, on n'en sait rien.
Mais remarque, il a un petit peu de surfeur, t'as raison, avec le collier et tout, là, tu t'imagines qu'il pourrait aller faire du surf. Bon, bref. On va finir
on
avec
délire.
La dernière tendance, celle de l'annonce des hardware. Parce
ah
qu'elle
ouais,
a été à moitié. On va dire rempli parce qu'on s'attendait avec un peu de chance, même si ça a été,
oui.
On va dire déconfirmé
ouais,
par,
ouais.
Par justement par Sony
par
avant le 3 qu'il n'y aurait pas de PlayStation 4,5 Neo 4K, appelons-la comme on veut.
Faudrait la mention inutile.
Voilà, exactement. Elle ne serait pas montrée durant cette 3.
Non, mais même pas annoncée.
Annoncée, enfin, c'est fait maintenant. Elle est annoncée.
Il non, elle n'a pas été
officieusement.
Annoncée. Ils ont confirmé qu'il
oui,
y avait bien quelque chose.
Qu'il y avait une PS4 voilà. Haut de gamme.
Mais elle n'a pas été annoncée officiellement.
Non, c'est vrai, elle n'a pas été
voilà,
montrée
non.
Officiellement.
Elle
n'a pas de
nom, pas de specs, pas de date.
Voilà, c'est ça.
Enfin, elle n'est pas annoncée.
Elle pas d'adresse,
on a beaucoup parlé là-bas avant le début des confs.
Ouais. Et même après. Hein.
Et c'est vrai que quand Andrew House a fait cette déclaration, on s'est dit qu'il avait bien fait. Parce que comme ça, il se libère de toute contrainte et de tout poids pour la conférence Sony après. Il dit, on a dit qu'elle existait, comme ça là les gens il y a plus de mystère etc.
Ils vont pas
nous saouler pendant
parce
la conf.
Parce que finalement Microsoft a dit la même chose avec plus de détails quoi, mais c'était juste une vidéo de mecs qui disent ah là là c'est un monstre, ça va être génial et tout.
Et c'est pareil avec,
It is the monster.
Avec Julien, on en a beaucoup parlé et en ce qui me concerne, je pense qu'aussi bien Sony que Microsoft ont fait exactement ce qu'ils devaient faire vu leur position actuelle.
C'est le Microsoft, par exemple.
Sony le mentionnait brièvement avant et de pas du tout en parler pendant la conf, sachant qu'ils ont encore des PS4 à vendre, etc. Microsoft, de son côté, ils ont plus rien à perdre. Mmh. Même si la Xbox One se vend bien, elle est quand même loin derrière, loin derrière la PS4.
C'est pas si loin que ça, la PS4.
Mais globalement, on parle des chiffres à l'échelle mondiale, parce que l'E3, ça attire quand même les regards du monde entier. Et là, ils peuvent balancer des infos sur leur nouveau hardware et dire qu'ils vont le sortir.
Mais d'abord,
ils ont rien à perdre.
Mais commencer avec une Xbox One S déjà, une petite Xbox One beaucoup plus sexy et beaucoup plus.
Mais ça, c'est le truc le plus surprenant, je trouve.
Bah attends. Moi, j'avais pas de Xbox One. Je l'ai pas acheté parce que pour diverses raisons. Bah celle-là me tente bien, tu vois.
Mais oui, mais est-ce
donc
que
il s'adresse à des gens comme moi.
Est-ce que tu
pas franchi le pas.
Ça, tu pourras jouer à Forza Horizon 3.
Exactement.
Est-ce que tu prends la Xbox One S sachant que t'en as une autre qui sort un an après?
C'est pas grave. Ça me dérange pas plus que ça.
Il est comme Poufy, il va peut-être acheter
deux. Non, j'ai pas acheté la Xbox One, donc
mais
voilà.
Cela dit,
ça me dérange pas plus que ça, vraiment.
Cela dit, tu vois, certains vont dire, ouais, annoncer la Scorpio un an avant, c'est une erreur, etc. Moi, je pense pas.
Bah non.
Moi, j'ai trouvé que c'était.
C'est vrai que moi, je craquerais bien pour la Xbox One S, et pourtant, j'ai déjà une Xbox One. Mais enfin, je vais attendre 6 mois, quoi. Scorpio, c'est.
6 mois, t'es sûr?
Elle sort en août, la S.
Ouais, c'est ça. Scorpio, c'est début 2017.
C'est fin 2017.
Ah oui, merde, c'est fin 2017.
C'est un an et demi.
C'est un an et demi.
Ah non, c'est long. Donc un an et demi, c'est long.
Mais pour le coup, là.
T'attends de rentabiliser.
La Xbox One S, je l'ai trouvée super attirante aussi. Surtout que chez moi, j'ai un écran 4K que je n'ai jamais utilisé pour de la 4K en fait, jusqu'à présent. Mais non, c'était une grosse promo à la fin. Pour moi, 5000 euros.
T'auras juste Netflix en 4K. T'es au courant?
Oui, je sais.
Oui, mais c'est pas grave ça. Enfin, moi,
sur la S, les jeux sont upscalés. Donc, c'est pas évidemment. Et ça te permet de profiter
HDR.
Du mais fameux.
Ça, je demande à voir.
C'est ce que moi, les mecs m'ont dit quand j'ai joué à Gears 4.
Tu confonds pas avec le HDR?
Ah non. D'accord. Ils m'ont dit.
Parce que ta télé, elle est HDR par exemple?
Elle est Sharper en tout cas.
Ouais, elle est 4K, c'est tout ce que je sais.
HDR, il y a peu de télé qui sont HDR.
C'est la 4K, le
mais ça fait une grosse différence le HDR.
Mais là, c'est ce qu'ils m'ont dit. Quand j'ai pris Gears en main.
C'est l'interprétation des couleurs, etc.
Ouais, Gears en main, ils m'ont dit les jeux Xbox One S seront upscalés en 4K. Plus Gears 4, en l'occurrence ce cas-là particulier, lui exploite le HDR. Et je lui ai demandé, ça a quel impact?
Ça améliore.
Mais dis, vous voyez les zones rouges là, etc. Ouais. Elles ressortent plus.
Mais il faut que tu aies une télé compatible HDR.
Il faut
ça suffit pas d'avoir
HDR,
une télé 4K.
Je sais pas, mais au moins une télé 4K.
Non, mais HDR c'est une norme. C'est comme THX, machin, etc. Si ta télé elle est pas HDR, tu peux pas profiter du HDR.
Et on peut pas avoir 4K et HDR en même temps.
Si.
Ah oui, d'accord.
Il y a des télé 4K qui sont HDR. Et l'autre, Sony en fait.
L'autre point fort pour moi de la Xbox One S, c'est que tu as un lecteur UHD. Un lecteur Blu-ray UHD.
Le moins cher du marché, du coup.
Voilà.
HDR, ça n'a rien à voir avec haute définition. Hein. C'est High Dynamic Range.
Bien sûr.
On a compris, professeur Rollin. C'est bon.
Non, mais voilà, j'ai dit.
J'ai parlé d'un autre élément. Parce que c'est vrai qu'ils vont commencer à sortir des films en Blu-ray, Ultra HD. 4K, Ultra HD. Ouais. Et le fait que la Xbox One S ait un lecteur Ultra HD.
Ça fait un
HD
peu comme la PlayStation à l'époque avec le DVD.
Avec le DVD,
ça fait une entrée de gamme.
Ou le Blu-ray avec la PS3, si tu veux aller par là.
Exactement.
C'est un avantage.
On achète plus trop de DVD quand même. Enfin,
moi j'achète encore les mes films préférés.
DVD, non.
Mes films préférés, j'ai envie de les avoir en physique. Et là tu vois, c'est con parce que Ghostbusters 1 et 2 par exemple, je les ai en Blu-ray. Et là ils viennent de sortir
Blu-ray HD,
les Ultra HD
rien,
de Ghostbusters. Apparemment ils ont traité l'image, etc.
Ouais, mais bon, ça date.
Et tu vois, ben ça. Je sais que c'est un
on
peu
est
de la con, carotte.
Hein, on rachète toujours les mêmes films, mais moi
non,
c'est
mais
pareil.
Là, c'est un peu de la carotte, mais j'ai quand même envie. Et tu vois,
Akira
par exemple,
et Star Wars, chez moi, je crois que j'ai battu tous les records. Hein. Je dois avoir toutes les éditions d'Akira et de Star Wars. Même en laserdisc.
Ah, la cassette vidéo.
Et j'ai plusieurs laserdiscs différents.
Mais Retour vers le futur ou Ghostbusters, c'est des films que j'ai en je ne sais pas combien d'exemplaires. Et là, tu vois, il y a Deadpool qui est sorti en Blu-ray, Batman vs Superman, des films comme ça qui sortent en Blu-ray 4K maintenant.
Et qui ont été tournés en 4K en plus.
Voilà, et maintenant pour les films.
Parce que là, il y a une grosse différence.
Pour les films récents, et je me dis, j'aimerais bien les voir comme ça, de la meilleure manière possible, mais j'ai pas de lecteur.
Sur ta belle télé.
Et voilà,
j'ai pas sûrement lecteur.
Et donc là, il y a la Xbox One S, mais le problème, c'est que j'ai déjà la Xbox One et j'ai pas envie de la vendre. Enfin,
tu sais qu'il y a la télé 8K qui sort à la fin de l'année. Hein.
Ça.
Non, c'est vrai.
Non, mais attends, juste pour que t'aies une. Parce
oui,
que
c'est vrai.
Tu te fourvoies, Traz. Ma télé 4K, je l'ai payé moins de 1000 euros.
Non, mais je déconne.
Mais ça coûte même très cher, les 4K.
Oui, maintenant ça va.
À part celle que je veux.
À
part celle que je veux, elle coûte pas très cher.
Oui, certes.
C'est un bourgeois.
Mais non, mais le top, c'est.
En plus, je l'ai même pas envie de payer, c'est ma copine, tu vois. Bien fait pour elle.
Hein?
OLED et 4K, c'est le top.
Oui, non, mais
là, je viens de voir qu'elle était pas HDR, tu vois.
Charlie OLED, tu connais?
Pas mal celle-là.
Elle est un peu 1965 celle-là.
C'est bon, je vous l'accorde, bande de cons.
Bon, bah écoutez, guitare. Je pense qu'on a fait le tour. Si, à moins que vous ayez d'autres tendances.
Bah ouais,
qui
c'est
vous
quoi
ont...
le résumé de cette E3? C'était quand même bien, non? Tu t'es bien éclaté?
Bah,
t'as,
ah,
mangé,
oui, oui.
T'as mangé des burgers ou pas?
C'était.
Végétarien, bien sûr.
Un petit peu de burger, ouais.
Pas tant parce que végétarien.
Faut dire que pendant l'E3, on mange pas beaucoup en fait. C'est à base d'un repas par jour quand même.
Bah comme ici, hein, d'ailleurs, nous on buvait beaucoup de café, mais on mangeait pas des masses. Hein.
On mangeait rien, nous, on avait pas le temps.
Moi je m'étais préparé mes petits plats.
Prévoyant.
C'était un très bon endroit et on
bah
était
on,
content
on
d'avoir.
On s'imaginait pas qu'il serait si bien.
On était content d'avoir des gros jeux et on était content d'avoir un peu de hardware
beaucoup
aussi
de
parce que c'est vrai
hardware.
Que les annonces hardware ça ajoute un petit côté,
bah
un
oui,
petit côté historique aussitôt
que ça dans le calendrier au niveau hardware. C'est vrai.
Par contre, déçu que Nintendo ne dise rien sur la NX encore.
Ça va bientôt, t'inquiète pas.
Ça va arriver là.
Ouais, mais ça va sortir avant qu'il le présente à un E3 puisque c'est censé sortir avant mars.
Bah oui, mais on la verra.
C'est quand même rare ça.
On la verra.
On la verra.
Bah, Tokyo Game Show,
t'en fais pas.
Il voilà, y a que ça quoi. Mm.
Bah, ils participent pas au Tokyo Game Show de Nintendo.
Oui, bah, ils feront un truc en parallèle ou je sais pas.
Je l'avais déjà dit, mais la Wiimote avait été présentée.
En marge.
En marge.
Oui, mais là, techniquement, les
confs. En marge 2005.
Les confs Microsoft, Bethesda, Sony, etc., ce sont des confs organisées en marge.
Oui, mais ils ont leur stand à l'intérieur.
En marge,
oui,
de Simpson, bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est que Nintendo a déjà fait une conf en marge du Tokyo Game Show.
C'est vrai.
Donc, ils pourraient très bien décider de refaire la même chose et.
On a, sur un parking.
Non mais j'en parlais avec
sur un terrain vague.
J'en parlais avec Julien hier ou avant-hier. On se disait que cette année le Tokyo Game Show pourrait avoir une importance bien supérieure à celle qu'il avait pendant les années précédentes. Parce que
si
t'imagines,
Sony, Nintendo,
Sony annonce sa Neo pendant le TGS, Nintendo
là,
fait
bien,
une conf juste avant le TGS, et après forcément sur les stands, bah t'auras des produits qui reflètent ces annonces. Ça pourrait être un Tokyo Game
TGS,
Show intéressant cette année. Après, on ne sait pas si c'est là qu'ils le feront ou pas, mais j'imagine assez mal Nintendo dévoiler la NX pendant la Gamescom.
Oui, non, là.
Non, parce que la présence de Nintendo, enfin, en tout cas historiquement à la Gamescom, Nintendo est toujours présent, mais c'est toujours uniquement dans la partie publique et uniquement avec des produits déjà annoncés, etc., qui deviennent jouables pour le grand public, pour les visiteurs.
Voilà.
Ils n'y participent pas côté business. Non.
Parce qu'après, c'est vrai que si tu réfléchis au calendrier de la fin
après, ça peut changer aussi.
Oui.
Ils ont peut-être des plans différents cette année parce que Nintendo NX.
Si tu regardes le calendrier de la fin d'année, pour Sony, uniquement le PlayStation Experience, ça me semble un peu tard. Surtout que PSVR sera déjà sorti.
Je pense que la
console sortira plus ou moins en même temps. Donc le PlayStation Experience, ça me semble trop tard. La Paris Games Week, c'est peut-être un poil trop tard pour la Neo aussi. Donc c'est vrai que le Gamescom, Tokyo Game Show, c'est là où ça se jouerait. Et pour Nintendo, là, le mystère est encore plus grand. Mais ils ont dit qu'ils en parleraient cette année. Donc maintenant, ça nous laisse un peu moins de 6 mois. Quand est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils font un événement dédié? Est-ce qu'ils font ça sous la forme d'un Nintendo
Direct? Et
pourquoi
pas Japan Expo?
Japan
non, ça
Expo,
va, je déconne,
non,
c'est bon,
peut-être pas,
du calme.
Du calme, Gaël.
En tout cas, c'était un bon E3.
Ouais,
C'était un bon podcast, mais on n'a pas encore parlé des jeux.
Et on n'a pas encore parlé des jeux. Les jeux, c'est dans le prochain podcast, hein, dans le podcast
encore
qui va arriver.
Exactement.
Soit la semaine prochaine si vous n'êtes pas premium, soit dans quelques minutes si vous êtes premium, ou
trois
demain,
podcasts,
hein,
mec.
Parce qu'on a prévu les installer sur plusieurs jours, sur trois jours.
E3,
dans la même semaine.
Exactement.
Bien vu là.
C'est quand même
on vous gâte, hein, on tient à le dire. Mais bon, c'est pas fini pour le 2016. On continue le bilan dans le prochain podcast qui va traiter des jeux. En ce qui concerne les tendances, n'hésitez pas évidemment, hein, chez vous, avec les commentaires là ci-dessous dans le forum magique, à nous dire ce que vous avez pensé des tendances qui se sont, d'après nous en tout cas, on va dire
dégagées,
voilà, de cette E3 2016. Et si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part et à en discuter, comme on dit, dans le respect. Voilà. Messieurs, merci. Traz, Romain, Julo,
respect. Merci à toi.
Encore merci pour
merci
à tous.
On se dira merci la semaine prochaine quand ce sera le dernier podcast.
Enfoiré.
Merci encore une fois à Poufi et à Sono. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans le prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et puis surtout, jouez bien.
Ciao.
Salut, merci beaucoup. Adieu, merci.